prend cette veille de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et où l'on ressonge à toutes les déportations et à la Shoah, cette histoire extraordinaire et peu connue que Marek Alter nous raconte à travers son dernier livre « La Juive de Shanghai », comment des Juifs, plutôt que de prendre la direction du Canada ou de Cuba ou des États-Unis, se sont dirigés vers la Mandchourie et vers Shanghai.
La première, le fin mot, Eddie Kachelbergs.
En mariant sa fille, Maurice Ohana officialise la renaissance de la communauté juive de Shanghai. C'est en effet le premier mariage célébré depuis la Seconde Guerre mondiale dans la principale synagogue du Shanghai des années 30. L'avenir, Maurice l'espère aussi radieux qu'en 1930 où Shanghai comptait 30 000 juifs, tous partis avec l'arrivée des communistes. Mais en 2006, les juifs orthodoxes Lubavitch ouvrent un centre religieux pour la prière et l'enseignement. Aujourd'hui, la communauté compte 1500 membres.
Bonsoir Marek Alter.
Bonsoir.
La Juive de Shanghai, avec toute la trajectoire d'Abraham, c'était vos deux œuvres fondatrices.
C'est vrai, c'est juste. J'ai découvert qu'au moment où moi j'étais dans les ghettos de Varsovie, où des millions de Juifs étaient condamnés par les nazis à la mort, et toutes les frontières étaient fermées, il y avait une seule ville au monde qui était prête de nous accueillir. Mais les gens ne savaient pas. Et c'était Shanghai. Ouais.
Shanghai qui, à ce moment-là, bien que sur territoire chinois, est sous contrôle japonais.
Sous contrôle japonais, mais avec des concessions internationales. Il y a une concession française. Concession française dirigée par de Montferrand, qui était pétainiste, mais qui ne voulait pas obéir aux ordres de Vichy quand il s'agissait de la persécution des Juifs. Et je découvre deux choses. L'une, qu'une de mes tantes, une couturière qui a eu beaucoup de succès, paraît-il, je ne l'ai jamais connue.
Ruth,
à Berlin, et qui a fui le Berlin après la nuit des cristals, à Varsovie. Varsovie, ma ville natale. Et dans un petit chapitre, j'ai essayé de rendre hommage à cette ville. La ville existe, mais elle n'est plus la même.
Non.
Il y avait 1 million d'habitants, 400 000 juifs qui parlaient une langue qui était ma langue maternelle,
le yiddish,
et aujourd'hui, rien, plus rien. Je me suis même fait plaisir en appelant ce chapitre « Ma chère Varsovie » et je l'ai écrit en yiddish, « Mein liebe Varsche ». Et puis, dans cette Varsovie, c'est une jeune, elle est ouverte au monde. Elle aime son cousin, ce qui est interdit dans la religion juive. C'est déjà une révolte, une transgression. Que lui, il est rédacteur dans un quotidien libéral. Et ils apprennent qu'il y a une ville qui les attend, c'est Shanghai. Et ils n'attendent pas ni l'aide de Dieu, ni l'aide d'Amérique, ou des Français, ou des Anglais. Ils se mettent en route pour aller à Shanghai.
C'est loin.
Regardons la carte. Ils foncent vers la frontière soviétique. Les Russes ne veulent pas d'eux. Et là, j'ai découvert une histoire qui mérite un film, mieux que la liste de Schindler. Un consul général japonais, Sugihara, qui voyant ces Juifs dans la rue, perdus, condamné à mort par l'armée nazie qui avance et les Russes qui ne les laissent pas passer, décide de leur donner des visas pour le Japon, ce qui leur permettait de traverser la Russie. Il demande à Tokyo, à son gouvernement, l'autorisation. Bien sûr, ils disent non. Il prend ça sur lui. Il a payé très cher, il a fait la prison, etc. Et il donne 6 200 visas. Donc, il sauve deux fois plus de Juifs que Schindler. Et ces Juifs, donc, avec ma tante, la jeune Ruth, traversent la Russie. Ils arrivent à Kobe, au Japon. Manque de peau, c'est le jour où Hitler, Mussolini et l'empereur du Japon signent un pacte. Et les Allemands, voyant arriver ces Juifs, certains religieux avec des papillotes, la barbe, etc., en disant « mais il faut les liquider ». Et là, j'ai découvert qu'en Asie, pour les Chinois, pour les Japonais, ils ne savent pas ce que c'est les Juifs. Ça veut dire qu'il y a le Japonais et les autres. Mm. Peu importe son noir, blanc, jaune, etc., c'est les autres. Mais il n'y a pas de raison de les tuer. Les Allemands insistent et ils trouvent un compromis. On va les envoyer à Shanghai, contrôlés, comme vous avez dit, par l'armée japonaise, et on va les enfermer dans un quartier qui s'appelle les ghettos. Si vous arrivez aujourd'hui, tant des années après, à Shanghai, qui est devenue la plus grande ville du monde, 27 millions d'habitants, vous avez des flèches partout, en anglais et en chinois, visitez les musées des ghettos de Shanghai.
Dans l'ancienne synagogue.
Dans l'ancienne synagogue.
Cette odyssée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vous l'avez dit, c'est même plus que Michel Strogoff, hein, parce que imaginez à l'époque, dans les circonstances de l'époque, traverser une grande partie de la Russie, la Sibérie et autres pour arriver via la Mandchourie, j'imagine, au Japon et ainsi à Shanghai, c'est l'histoire d'une vie. Ça prend combien de temps?
Ça prend quelques mois, je crois que c'est 4 mois. Beaucoup de gens sont perdus en route parce qu'ils ont pris, malgré les visas, parce qu'ils ont pris les trains de marchandises. Donc, il n'y avait pas de toilettes. Les trains s'arrêtaient en pleine campagne pour que les gens puissent aller faire pipi dans les champs. Et les trains démarraient et ils restaient avec leurs pantalons, ils couraient. Ça, je me souviens quand nous, on a traversé la Russie en fuyant mes parents et moi, ma mère enceinte à l'époque. Un de mes oncles est resté comme ça dans les champs et je les vois encore tant d'années après, 80 quelques années après, en train de lever les bras au ciel et il était perdu. Donc, c'est vrai, c'est déjà un film. Et puis, moi, comme vous avez remarqué, j'aime les femmes, pas les femmes en tant qu'héroïnes, en tant que les meneuses. J'ai consacré aux femmes de la Bible 3 livres, aux femmes de l'Islam 3 livres, et à Marie, qui a fait 150 000 ou plus d'exemplaires, parce que je voulais montrer l'importance de la femme dans l'histoire. Ce n'est pas seulement parce qu'elle donne la vie, mais le fait de donner la vie lui donne un sentiment particulier envers ce qui est la vie. Ça veut dire sa responsabilité envers la vie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Ce sont les femmes qui font trembler les mollahs. Nous, on a fait nos manifestations à Bruxelles, à Paris, etc. On protestait contre les tortures. Rien. Des femmes descendent dans la rue, coupent les cheveux et on ne paie rien. Pourquoi on ne paie rien? Parce que ces femmes sont des filles, des femmes, des sœurs de ces mollahs qui doivent donner l'ordre d'étirer sur elles. C'est pour ça qu'il y a si peu de... Bon, il y a des morts, mais ils auraient pu prendre un canon, ils les retiraient dessus. Ils ne les font pas. C'est ça la force des femmes.
À propos de femmes, il y a évidemment, dans votre version romanesque, évidemment, ici, la juive de Shanghai, une rencontre entre Ruth et Clara. Oui. Clara, c'est l'inverse. Clara, ça pourrait être la bonne société qui, à la limite, pourrait accueillir le fascisme, le nazisme. Elle va trahir sa caste, en
c'est
quelque sorte.
Allemande.
Ouais, elle va trahir sa caste et sa patrie en devenant une révolutionnaire. Elle va épouser la cause communiste.
Oui, ça m'est venu presque naturellement. Vous savez, quand vous écrivez un roman, vous vous documentez beaucoup. Donc, je connaissais la ville de Shanghai, la ville de Berlin, la ville de Varsovie. J'ai sur mes murs des cartes de cette époque. Et vous lâchez dans la rue une femme, une jeune couturière dont on parlait à Berlin comme la Schiaparelli allemande. Il y a Hitler qui arrive au pouvoir. On commence déjà à persécuter les résistants, les catholiques, puis les juifs. Il est normal que sur son chemin, elle rencontre quelqu'un, une Allemande ou un Allemand, qui partage la révolte avec elle. Elle, c'est normal, elle est persécutée d'avance, puisque c'est dans Mein Kampf d'Hitler que hein, qu'elle était déjà condamnée, mais il était normal qu'elle rencontre quelqu'un. Et puis, ça est venu normalement, naturellement, une jeune Allemande qui s'est révolte contre ce qui se passe en Allemagne.
Il y en a eu. Hein.
Et il s'est créé là une amitié, et là j'ai découvert, c'est pas une amitié homosexuelle, mais il y a une tendresse qui fait que les femmes s'embrassent, se caressent, s'entraident, se touchent constamment, appliquent leur corps contre le corps de leur ami pour montrer leur attachement à la personne. Et j'ai trouvé ça très beau. Les hommes n'osent pas. Nous sommes un peu des brutes. Hein. On se donne les accolades. Et on tape sur les cuisses de notre copain et dit « Bravo, mon vieux !» Tandis que là, il y a une vraie tendresse. Et puis, sur le bateau qui amène route du Japon à Shanghai, et c'est vrai, ce sont des vrais bateaux qui ont existé, elle partage la cabine avec plusieurs femmes. Chacune a un nom. Et on y dit, chaque nom symbolise quelque chose. La foi, le bonheur. Et il s'est créé cette collectivité des 8 femmes, l'entraide entre 8 femmes, le partage des mémoires des 8 femmes différentes, des milieux différents. Et là, j'avais aussi un choix de raconter ça moi, ça veut dire l'auteur est un dieu, ça veut dire c'est lui qui gère le destin, ou laisser la parole à route. Et là, comme quoi j'ai mis d'ailleurs en exergue dans mon livre une phrase des Talmuds, l'homme fait des projets et Dieu rigole. Donc moi je faisais des projets et j'ai découvert que cette route avait un journal, qui écrivait un journal. Et du coup, je lui ai laissé raconter ce qui se passait dans la cabine à elle. Et c'est vrai, c'est bouleversant, parce qu'il y a une des femmes meurt, on la jette à la mer, et comment les femmes survivantes se serrent les coudes, parce qu'elles pensent à leur famille, leurs enfants, elles sont seules, elles doivent survivre pour transmettre. Et pour moi, c'était un bonheur d'écrire ce livre parce que l'histoire paraît invraisemblable et pourtant elle a existé. Moi-même, j'ai appris énormément de choses, les rapports entre les Juifs et les Chinois. Vous avez dit au début, c'est tellement improbable. Or, j'ai découvert qu'il y avait des Juifs en Chine depuis le XIe siècle. Ils sont mariés avec des Chinoises, donc sont les yeux bridés, mais ils sont Juifs. Ils ont une mémoire complémentaire qui commence quelque part à Jérusalem. Et puis j'ai découvert, à Shanghai, il y avait des groupes de mafias qui sont enrichis grâce à la guerre d'opium. On a oublié ça. Il y a des vieux films américains là-dessus, avec, je me souviens, Gary Cooper. Et la guerre d'opium... L'opium était très important pour la santé parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas d'antidouleurs. On ne pouvait pas opérer quelqu'un sans opium, sans l'endormir grâce à l'opium. Donc, ça coûtait très cher. Et dans la guerre d'opium, il y avait des clans et il y avait aussi 3 clans juifs. Des juifs venus de Bagdad, des Bagdadis, parmi lesquels Sassoun, qui je mets en scène. Sauf que là, il y a une particularité, c'est Charles Aznavour qui m'a dit un jour, ça m'a touché, il m'a dit, tu vois la différence entre nous, nous étions persécutés comme les Juifs, nous les Arméniens, ça on connaît. Là. Mais quand un Arménien devient riche, il construit une église. Quand un Juif devient riche, il construit une école. Et avec ces Sassoun, je me suis rendu compte, il est devenu milliardaire, il a construit des écoles pour les enfants des réfugiés, pour qu'ils ne restent pas sur les trottoirs après, pour qu'ils aient une connaissance, un métier. Et il joue un rôle dans l'histoire de ma tante Ruth, puisque d'une certaine manière, il lui trouve les moyens de retrouver son ami perdu l'allemande Clara.
Dans ces gestions improbables, qu'est-ce qui fait que cette mémoire s'est perdue? C'est le régime communiste chinois qui ne souhaitait pas cette mémoire?
Mais vous savez, le problème avec toutes les idéologies, c'est qu'à la naissance, elles sont généreuses. C'est pour ça que ça marche. Moi, je suis arrivé en France en 1950, j'avais 14 ans. C'était la veille du 1er mai, il y avait 1 million de personnes avec les drapeaux rouges. 1 million de personnes. Tous les prolétariats. Aujourd'hui, il n'y a plus de prolétariat. Il y a des gens qui travaillent, mais ce ne sont pas des prolétaires. C'est-à-dire, ils rêvaient un monde plus juste. Le partage des richesses. Et puis, avec le temps, tout ça, ça se dégrade. C'est comme la Révolution française. Quand on prend les textes de Robespierre, de Danton, etc., c'est génial. Mirabeau, c'est génial. Et ça a terminé par la guillotine. Les mêmes guillotinaient les autres et ils étaient guillotinés. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs, comme des Français, comme des Belges, qui partageaient ces rêves. Ils devenaient communistes, socialistes, libéraux. Ils ont cru que l'Union soviétique, ça sera peut-être la patrie des persécutés. Et ils ont déchanté. Et du coup, ils ont cherché un autre endroit, un autre lieu où ils pouvaient investir leur foi, leurs rêves. Et c'était la Chine de Mao. Ce qu'on n'a pas réussi en Europe, en Allemagne, en France, en Russie, on réussira là-bas.
Du Birobidjan à la Chine.
Exactement. Alors, Birobidjan, c'était pour les Juifs qui voulaient garder leur culture, leur judaïsme. On est 15 ans avant la création de l'État d'Israël. Et Staline, il veut s'en débarrasser. Donc, bon, au lieu de les tuer, ce qui est déjà pas mal, il les a envoyés en Sibérie, où il y a une région autonome. J'en ai fait un film, d'ailleurs. Birobidjan, Birobidjan. Les seuls endroits au monde, en face de la Chine, sur la rivière Amour, non prédestinée, où toutes les rues sont marquées en russe et en yiddish. Pas en hébreu, en yiddish. Et puis, d'autres sont partis faire la révolution avec Mao. Et ils ont cru jusqu'à la révolution culturelle que c'était possible. Il y a d'ailleurs des monuments à la gloire des quelques juifs comme le général Lowe, qui s'appelait Jacob Rosenfeld, qui a eu l'idée, imaginez-vous, c'est lui qui a eu l'idée de la longue marche. Il est allé voir Mao, qui était en train de perdre contre Chiang Kai-shek, soutenu par les Américains. Il a dit, j'ai une idée, nous prenons 50 à 100 000 de nos adhérents, on donne un drapeau à chacun, ça fait une forêt de drapeaux rouges, et on traverse la Chine et on sera des millions. Et Mao lui dit, où est-ce que tu as pris ça? Il est allé chercher la Bible traduite en mandarin. Il dit, regarde Moïse. Il était là, deux, avec son frère Aaron. Il rentre en Égypte et il sort avec un peuple. Et ça a réussi.
La question qui reste, c'est que pendant 10 ans, vous n'aviez pas produit de romans mais des essais. Pourquoi avoir fait de ceci un roman et pas un essai?
Vous savez, je suis comme tout le monde. Je m'imagine, j'ai la prétention d'influencer la cour des choses par mes actions, mes paroles, mes discours. Et je pensais, et ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre « Un monde sans prophète », que nous rentrons dans un monde particulier. C'est qu'il n'y a plus rien à quoi on peut s'accrocher. Il ne reste que Dieu. Vous m'avez dit à un moment, au début, Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est ce que dit chacun. Ou en hébreu, Ymir Tzer Hashem, peu importe. On n'a pas d'autres références. Les idéologies ont échoué. Il reste Dieu parce qu'on s'est dit que si au nom de Dieu on a commis des crimes, il ne nous a pas dit ça. Il ne s'est pas manifesté. Donc, j'ai pensé que ce qu'il reste, c'est l'exemplarité. C'est l'abbé Pierre qui m'a montré ça. Lui, hein, avec sa pèlerine, son béret, son bâton, qui allait d'une radio à l'autre pour pousser un cri « Au secours, les hommes meurent !» Et il bouleversait pendant 24 heures la conscience des hommes. Et j'ai voulu suivre un petit peu cet exemple. Et je me suis rendu compte que, bon, moi je ne suis pas un philosophe, je n'allais pas proposer une nouvelle conception du monde. Je voulais simplement alerter les gens sur les dangers qui nous guettent si on ne fait pas attention. Mais rien ne vaut un récit, un roman, des personnages avec lesquels on peut s'identifier, grâce auxquels on peut découvrir un pan de l'histoire, un pan du monde qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Balzac le montre très bien dans La fin d'illusion, je crois. Il commence par un atelier d'imprimerie à Angoulême. Et il raconte le travail des imprimeurs avec une précision extraordinaire. Je me suis dit, cette précision donne une poésie. C'est comme une symphonie. Et du coup, j'ai fait la même chose avec mon livre. Je commence dans un atelier de couture. Et j'avais peur que les gens sautent ces quelques pages. Or, tous les gens que je rencontre, ils disent « Non, ça nous a passionnés, on a appris quelque chose. » Parce que c'est la vie.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, la juive de Shanghai?
Ce qu'elle est devenue, bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je m'y suis imaginé. Après Pearl Harbor, comme vous savez, les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre. Il y avait des manifestations de la Deuxième Guerre mondiale, je parle. Il y avait des manifestations sur la 5e avenue à New York avec des pancartes. Nous ne voulons pas mourir pour l'Europe. Et puis, il y avait Pearl Harbor. Les Japonais attaquent par surprise les Américains. Et du coup, l'Amérique rentre en guerre. D'abord contre le Japon. Et ils bombardent les bases japonaises près de Shanghai. Et le destin a voulu que la première bombe tombe sur les ghettos de Shanghai. Et je me suis dit, tuer ma tante par la première bombe américaine, ça a de la gueule. Il fallait bien qu'elle meure, puisqu'elle est morte de toute manière. Moi, j'ai déjà 86 ans, elle aurait eu 150. Bon. Mais l'histoire ne termine jamais. Vous avez des enfants ou vous avez des amis qui parlent, qui se souviennent de vous, etc. Et elle a une fille.
Qui retrouve le journal.
Qui garde le journal et qui est chinoise. Mais elle a entre ses mains la mémoire de ces juifs persécutés par les nazis et qui étaient sauvés en Chine. Et elle apporte sa mémoire en Israël.
Vous allez redécouvrir ou découvrir tout simplement des morceaux d'une histoire très méconnue. Non pas l'histoire de la persécution des Juifs, celle-là, elle est connue. Non pas l'histoire du nazisme ou du stalinisme, elles sont connues. Mais d'une présence juive lointaine, mais renforcée dans un ghetto juif à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez extraordinaire. Et tout le périple pour l'y amener, et le courage de celles et ceux qui s'y rendent, et le courage de ce consul général qui les a aidés. Ouais. À franchir ses frontières. C'est dans La Juive de Shanghai, votre roman, Marie Calter, et c'est chez XO Éditions. Merci.
Merci à vous.